Il est 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
C'est une bonne solution, hein, puisqu'on nous disait que les enfants ne pouvaient pas être contaminés, et puis là, effectivement, ils sont contaminés, donc là, il ne faut pas prendre de risques.
Une campagne de dépistage massif a débuté aujourd'hui dans un collège du Val d'Oise après la détection de plusieurs cas de Covid, dont deux du variant sud-africain. On sera sur place.
Les étudiants peuvent à nouveau manger dans les restaurants universitaires. 1 euro le repas et surtout le plaisir de retrouver le temps d'un instant, un peu de vie sociale.
Comment éviter la prescription en cas d'inceste? Le gouvernement fait des propositions en exclusivité. Ce soir sur Europe 1, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance annonce qu'il souhaite instaurer une prescription glissante qui s'appuierait sur la date du dernier crime commis. Elle s'appliquerait à l'ensemble des victimes d'un même auteur.
Le Luxembourg au cœur d'un nouveau scandale fiscal après LuxLeaks et les Panama Papers. On vous présentera OpenLux.
Et puis quand l'affrontement entre Washington et Pékin se joue en mer de Chine, Didier François nous expliquera et il nous dira que la France aussi s'en mêle.
La météo, Anissa Haddadi, 36 départements placés ce soir en vigilance orange.
Oui, Julien, entre la Bretagne et le Grand Est, nous avons actuellement 27 départements en vigilance neige, verglas, l'Île-de-France compris, 5 départements toujours placés en vigilance crue et 4 départements des Hauts-de-France placés en vigilance grand froid. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc une campagne de dépistage massif qui a débuté aujourd'hui et qui va durer 3 jours. Dépistage lancé dans la commune d'Aubonne, dans le Val d'Oise, après la détection de 10 cas de Covid, dont au moins 2 cas de variants sud-africains dans un collège de la ville.
Un variant qui inquiète, vous le savez, particulièrement les autorités. Marine Proté, vous vous êtes rendue sur place pour Europe 1. Ces opérations de dépistage se déroulent dans un gymnase.
Oui, des petits box ont été spécialement aménagés au bord du terrain de basket. À l'intérieur, des infirmiers de l'hôpital d'Aubonne, mais aussi des sapeurs-pompiers du Val d'Oise, en combinaison blanche, ce sont eux qui réalisent les tests PCR.
Bonjour, alors donnez-moi votre fiche. Merci. Vous pouvez vous installer sur la chaise.
Tous les habitants d'Aubonne peuvent se faire tester, mais priorité aux élèves du collège Jules Ferry et à leurs parents. Ils sont une vingtaine. Parmi eux, Lucille, 13 ans, elle a très peur d'avoir été contaminée.
Surtout parce qu'en fait, dans ma famille, il y a des personnes à risque, mon père qui est à risque, ma mère, mes grands-parents. Et j'ai déjà perdu mon grand-père du Covid, donc j'essaye de faire le maximum pour préserver ma famille.
Luc, lui, veut surtout préserver ses élèves, il est professeur des écoles.
C'est une bonne solution, hein, puisqu'on nous disait que les enfants ne pouvaient pas être contaminés, et puis là, effectivement, ils sont contaminés, donc là, il ne faut pas prendre de risque. Je pense qu'il aurait peut-être fallu fermer dès le premier jour des vacances toute zone.
Pour ce père de famille, c'est un peu retour au confinement, télétravail à la maison avec son épouse et ses enfants. Une situation délicate qui le pousse sérieusement à envisager de se faire vacciner contre le Covid-19.
Un reportage de Marine Proté à Aubonne pour Europe 1.
Et l'objectif de cette campagne de dépistage, c'est 1500 tests sur 3 jours. Notez que le Parlement a voté cet après-midi la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Et puis aujourd'hui, Olivier Véran a dit qu'il estimait possible que l'on ne soit jamais reconfiné, même s'il reconnaît que le niveau d'alerte reste élevé mais stable.
L'Europe tentée par un tour de vis supplémentaire.
Oui, au Royaume-Uni, ce ne sera plus 1 mais 2 tests de dépistage obligatoires avant d'entrer sur le territoire. Les autorités veulent éviter l'importation d'autres variants. En Allemagne, Angela Merkel souhaite prolonger les mesures de restriction au moins jusqu'au 1er mars. La Grèce se dirige vers un confinement plus serré. Quant au Portugal, où les contaminations submergent les hôpitaux, le gouvernement envisage de maintenir le confinement jusqu'à la mi-mars. Et puis l'Espagne a, elle, franchi aujourd'hui la barre des 3 millions de cas.
On en vient maintenant à la mission de l'OMS à Wuhan, en Chine, qui se termine sur un sentiment d'inachevé.
4 semaines d'enquête et aucune certitude. Les experts estiment que la transmission du virus par un animal intermédiaire est hautement probable, mais cet animal n'a pas été identifié.
19h04, c'est une bouffée d'air pour les étudiants, la réouverture des Crous, les restaurants universitaires.
On en a beaucoup parlé ces derniers jours sur Europe 1, ils sont nombreux à souffrir d'une grande précarité dans l'impossibilité de faire les petits boulots qui auparavant leur permettaient de manger. Cette réouverture est donc une bénédiction avec, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, des repas à 1 euro. L'objectif aussi, c'est l'occasion aussi de rompre l'isolement tout en maintenant les distances nécessaires, bien sûr, comme la constaté Hélène Terzian à la mi-journée dans le resto U du quartier Mabillon à Paris.
Alors, ça a des possibilités de manger sur place.
Le geste peut paraître anodin, pourtant c'est presque hésitant que Quentin se sert au self.
Moi, je prends des pâtes carbo,
un yaourt et une entrée, donc c'est une salade.
Un repas chaud payé 1 euro qu'il va donc pouvoir déguster assis dans un resto U qu'il redécouvre avec ses camarades de promo.
Allez, on cherche une place.
On est 3-4 à vouloir manger ensemble.
En bas, il y a une salle où on peut manger à plusieurs, il y a des micros.
D'accord. Donc c'est des tables où on pourrait être à 9 et en fait on est 3. On était venu en début d'année, il y avait déjà des distanciations sociales, mais c'était loin d'être aussi important. Là, on est à 2 mètres, du coup, ça limite encore plus le nombre de places.
2 mètres de distance, en quinconce et avec des couverts jetables. Mais c'est déjà ça pour ces deux copains.
Ça fait un break, surtout pour manger à l'intérieur, on n'a pas froid, on n'est pas dehors.
Ouais, c'est quand même très agréable. Depuis le début de l'année, on a quand même eu très peu de moments où justement on pouvait être tous ensemble. Il y a cet aspect un peu convivialité qui revient. Nous, on est en première année, donc c'est nos premiers moments finalement depuis qu'on a passé notre bac. Ensemble à nouveau.
Un aparté réconfortant avant de remettre son masque et retourner réviser.
Le reportage d'Hélène Terzian dans un resto-U parisien. Après l'onde de choc déclenchée par la publication du livre La Familia Grande de Camille Kouchner qui révélait les actes incestueux du politologue Olivier Duhamel et le mouvement MeToo Inceste, le gouvernement a été sommé d'agir face à ces violences sexuelles intrafamiliales. Il fait aujourd'hui des recommandations.
Oui, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, est venu ce soir au micro d'Europe 1 en exclusivité défendre la position du gouvernement, notamment sur la question de la prescription.
La philosophie, c'est d'assurer une égalité de protection pour toutes les victimes d'un même auteur. Dans ces affaires-là, il y a souvent plusieurs victimes. Et ce qui se passe, c'est que souvent, la prescription est passée pour une grande partie d'entre elles, mais pas pour une. Et donc, il y a le procès pour simplement une des victimes et les autres sont là, uniquement comme témoins. C'est une situation qui n'est pas supportable. Nous allons adopter un mécanisme qui s'appelle la prescription glissante. Et en fait, c'est-à-dire que le mécanisme de prescription de la dernière victime va s'appliquer à l'ensemble des victimes du même auteur et ça va permettre à l'ensemble de ces victimes de pouvoir bénéficier d'un procès. Sur cette question du seuil d'âge, qui était un des sujets sur lequel le président de la République nous avait demandé au garde des Sceaux et à moi-même de consulter les associations, le gouvernement est favorable aujourd'hui à ce que soit défini effectivement un nouveau crime, c'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans est un crime sans qu'il ne soit plus question de consentement. Aujourd'hui, c'est l'âge de la victime qui sera la première chose qu'on interrogera et non pas de savoir si la victime était consentante ou pas.
Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, qui était donc notre invité ce soir à 18h20, dans Europe Soir. Notez que le parquet de Paris confirme l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur et complicité de viol sur mineur contre le producteur de télévision Gérard Louvain et son mari.
Et puis dans l'actualité judiciaire également, le placement en garde à vue de 5 personnes âgées de 18 à 29 ans dans l'enquête sur les menaces de mort contre la jeune Mila, harcelée pour ses propos sur l'islam.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal, 19h10. Et 7 ans après les révélations des LuxLeaks, souvenez-vous, le Luxembourg, une nouvelle fois épinglé pour ses pratiques fiscales, Isabelle.
Bon, c'est pourtant qu'il avait fait le ménage, mais le journal Le Monde révèle des chiffres édifiants. Le Luxembourg abrite les comptes de 15 000 Français, montant estimé, tenez-vous bien, 100 milliards d'euros d'actifs, c'est 4% du PIB français, Clément Le Saffre.
Oui, une fortune colossale, mais bien cachée. Elle appartient à des grands patrons, des sportifs, des héritiers et même des artistes. La moitié des 15 000 Français propriétaires de sociétés luxembourgeoises épinglés par l'enquête du Monde résident en France, contre seulement un quart au Luxembourg. Des noms difficiles à débusquer, bien souvent cachés derrière des holdings financières, des coquilles vides qui servent simplement à centraliser les bénéfices d'entreprises basées en France ou bien à gérer des portefeuilles d'actions. Et le montage est purement financier. Au Luxembourg, il n'y a pas de taxes sur les ventes d'actions et les dividendes ne sont pas soumis à l'impôt. Ce n'est pas de l'évasion fiscale, simplement de l'optimisation à une zone grise juridique. C'est aussi plus discret qu'aux îles Caïmans, véritable paradis fiscal. Là-bas, on peut espérer qu'il fasse beau et que les banques ferment les yeux sur à peu près tout. Mais les autorités internationales, elles, sont plus vigilantes qu'au Luxembourg et pour cause depuis les LuxLeaks en 2014. Le Grand-Duché montre patte blanche. Il a notamment mis fin au secret bancaire. Mais voilà, il y a encore des trous dans la raquette, la preuve. Et à la fin, c'est le fisc français qui en subit les conséquences. Selon Le Monde, les dividendes cachés au Luxembourg représentent un manque à gagner en impôts de l'ordre de 5 milliards d'euros pour les caisses de l'État.
Les précisions de Clément Le Saffre du service Écho d'Europe 1.
Toujours à l'étranger, que se passe-t-il au large de Taïwan ? La marine américaine a dépêché une véritable armada en mer de Chine pour mener une série d'exercices. Pas moins de 2 porte-avions avec tous leurs navires d'escorte.
Oui, l'US Navy vient de l'annoncer dans un communiqué et on en parle ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors si elle l'a annoncée. On imagine que c'est donc bien qu'elle tenait à le faire savoir.
Et voilà, c'est la réponse du berger à la bergère. Joe Biden relève le défi que lui a lancé le président Xi Jinping. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis son arrivée à la Maison-Blanche, les forces armées de Pékin ont multiplié les manœuvres d'intimidation contre Taïwan. Les chasseurs chinois violent systématiquement son espace aérien. La flotte communiste se montre de plus en plus agressive dans les eaux territoriales de la petite île nationaliste. Donc Pékin refuse toujours de reconnaître la souveraineté et dans le même temps, bien, poursuit l'annexion de différents récifs qu'elle convertit en base navale, malgré les condamnations claires de la Cour arbitrale internationale de La Haye. En fait, tout semble indiquer que le président Xi Jinping cherchait à tester la détermination de Joe Biden et à comprendre quelle marge de manœuvre il pouvait disposer pour réaliser son ambition, dont il ne fait plus mystère, qui est de transformer la mer de Chine en lac intérieur d'ici à 2035. Donc le déploiement au grand complet de deux groupes aéronavals qui représentent quand même une force de frappe considérable est de nature à rassurer les alliés des États-Unis et puis plus largement tous les pays de la région.
Dont la France fait partie.
Absolument, avec Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la France est bien une nation indo-pacifique avec une immense zone économique maritime de 9 millions de kilomètres carrés. Donc la préservation des règles internationales, la défense du droit de libre navigation sont des enjeux tout à fait fondamentaux. Et il est donc intéressant de noter que la Marine nationale a aussi aujourd'hui fait savoir que le sous-marin nucléaire d'attaque Emerald et son bâtiment de soutien, la Seine, viennent de terminer une patrouille en mer de Chine, une mission baptisée Marianne, tout à fait exceptionnelle, menée à 15 000 km du port d'attache de Toulon, et qui indique donc le très haut degré d'intérêt que porte le président de la République au sud de la mer de Chine, qui est devenu le point de friction mondial qui porte aujourd'hui le plus de risques à l'affrontement entre la Chine et les États-Unis.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle, on vous retrouve demain, évidemment à partir de 18h. La météo, Anissa, vous nous annoncez une nuit agitée car la neige va tomber sur la moitié nord. La journée de demain, en revanche, sera plus ensoleillée.
Oui, plus ensoleillée au nord, effectivement, Julien, et beaucoup plus perturbée sur la moitié sud, puisque des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Auvergne, nous avons une perturbation pluvieuse qui va arroser toutes ces régions toute la journée demain. Alors, ce sont des pluies assez modérées, mais sur les Alpes, les pluies seront très soutenues, avec un risque fort d'avalanche sur le massif du Haut-Var et du Haut-Verdon. Attention donc dans ce secteur. Au bord de la Méditerranée, le temps reste sec et ensoleillé, mais le vent souffle sur le golfe du Lion avec des rafales jusqu'à 100 km/h. De la Bretagne aux Ardennes, là où ce soir la situation est compliquée, eh bien demain, après les quelques flocons du matin, le soleil va s'imposer généreusement dans l'après-midi. Les températures, elles, seront toujours très froides, avec moins 7 à 0 degrés sur la moitié nord demain matin. Il va faire beaucoup plus doux dans le sud, avec jusqu'à 17 degrés au bord de la Méditerranée.
Bien. C'est le jour et la nuit entre le nord et le sud.
Demain après-midi, pour vous dire,
de la Méditerranée, ça fait rêver ça.
Demain après-midi, on aura 16 degrés à Nice et on aura moins 2 à Lille.
Un petit clou à Nice.
Au même moment de la journée.
Et les Moon Boots à Lille.
Exactement.
Voilà, la France coupée en deux. Merci Anissa, merci pour ce point météo complet. Soyez prudents si vous prenez la route ou si vous habitez dans les zones concernées.
Europe 1, écoutez le monde changer.